Bonsoir à tous et bienvenue au bistrot des ethnologues. Du coup, je fais pour tous ceux qui nous rejoignent en visio. Merci Bernadette Lisée d'être présente parmi nous ce soir et de venir nous présenter ton ouvrage, Le cheval en robe de mariée, qui décrit parfaitement bien, qui est une expression que d'ailleurs j'ai clairement entendue sur le terrain d'un marchand de chevaux, Monsieur Jomard, pour ne pas le nommer. Donc avant de commencer, je vais remercier encore une fois le service patrimoine de la communauté de communes du Clermontais, ainsi que la bibliothèque Max Rouquette de la ville de Clermont-l'Hérault qui nous accueille ce soir pour cette séance. Et je remercie la DRAC, la ville de Montpellier, l'association Jeunes Chercheurs Contact qui nous soutient au bistrot des ethnologues, ainsi que la librairie Espace d'un rêve qui est présente ici et pour la mise en vente de tes deux ouvrages, Bernadette, enfin deux ouvrages. Donc Le cheval dans la vie quotidienne, si je me souviens bien, qui est sorti en 1982, donc tu étais vraiment pionnière, on va dire, dans le domaine des anthropologues, on va dire, qui s'intéressent à la relation avec les chevaux. Et l'animal en général, bien sûr. C'est vrai qu'il y a un revival un petit peu dans l'anthropologie aujourd'hui, hein, mais qu'il ne faut quand même pas occulter que beaucoup de choses ont déjà été dites, en tout cas sur ce qui se passait dans ce qu'on appelle l'anthropologie rurale française. Hein, il y avait déjà énormément de choses qui avaient été décrites. Donc c'est bien aujourd'hui que tu puisses ressortir aussi, que tu aies pu ressortir cet ouvrage qui est ressorti en 2020, voilà. Et ce soir, tu nous présentes plus particulièrement donc, Le cheval en robe de mariée, hein, qui est un ouvrage avec des méthodes d'enquête très particulières, où c'est sur trois générations. Tu as entretenu des liens sur le temps extrêmement long avec la famille Perraguin, des correspondances, enfin des choses qui ne se pratiquent plus beaucoup, je dirais, dans l'anthropologie aujourd'hui. Donc c'est vraiment précieux de voir aussi cette anthropologie-là qui se pratique et la manière dont tu as pu en fait en faire quelque chose de très riche, quoi, et qui se lie aisément. On découvre vraiment tout un univers d'un quotidien, en fait, le mode de vie sur les routes, sur les rails, je sais pas comment dire, de ces marchands de chevaux. Voilà. Il y a une autre partie de ton travail qu'il faut mentionner également, hein, parce que finalement, tu es une pionnière pas sur la relation avec les animaux, mais finalement sur ce qui va concerner ce qu'on appelle les relations interspécifiques, quoi. Parce que tu as également travaillé sur la nature en ville, notamment avec des travaux avec Colette Pétonnet, hein, donc en ethnobotanique. Donc c'est finalement... c'est pour ça que c'est très important aussi de t'écouter aujourd'hui, d'entendre ce qu'une femme de l'anthropologie française, de l'école des ruralistes ont à dire aussi aujourd'hui au regard de ce qu'on entend plus de l'école, on va dire, héritière des travaux lévi-straussiens, hein, qui nous amène plus dans d'autres contrées, plus exotiques, etc. Bon, ben là, regardons un petit peu notre histoire et tout ce qu'elle a à nous apporter de nos relations avec le vivant. Voilà. Merci Bernadette.
Et merci Gaëlla, et merci au Bistrot des ethnologues, qui est une institution que j'estime énormément, pour plein de raisons, parce que d'abord elle tient depuis exactement 1993, et qu'elle s'est fixée comme mission une chose à laquelle je suis très attachée, c'est de faire connaître auprès d'un public le plus élargi possible le travail des ethnologues. Elle accorde énormément d'intérêt à l'ethnographie, c'est-à-dire les choses souvent matérielles et des petits détails qui peuvent s'avérer extrêmement précieux pour construire des analyses, un cadrage extrêmement général. Et ceci va de pair avec le fait que les ethnologues, peut-être pour contraster avec d'autres spécialistes des sciences sociales, aiment la langue. Ils aiment bien écrire, c'est-à-dire écrire simplement. Et en fait, il n'y a pas du tout de contradiction avec le fait de conduire des analyses très rigoureuses. Hein. C'est quand même une discipline scientifique, l'anthropologie. Mais en même temps, on peut très bien écrire d'une manière... En utilisant le français avec tout son nuancier qui se prête particulièrement... à la traduction écrite du travail de l'ethnologie sur le terrain, dont il faut dire tu as parlé magnifiquement dans la présentation de ton exposition. Alors, on avait convenu entre nous de faire le lien entre nos deux terrains. Alors, je me suis attachée à faire cela. Et il faut dire que ça a été un vrai plaisir parce que ça a été l'occasion de renouveler ce que j'ai à raconter sur le cheval en robe de mariée. Le propre des chercheurs est d'avoir horreur de répéter deux fois la même chose. Et là, j'ai replongé dans mes énormes matériaux de terrain, dans la diversité que tu as évoquée, et pour faire ressortir beaucoup de choses, en fait, sur le monde des voyageurs. Et je ne soupçonnais pas que c'était aussi riche. Donc, je ferai le lien donc, avec ton terrain. C'est la joie du métier. Et je vais faire aussi le lien entre les deux livres. Alors, le cheval en robe de mariée, quand même, il faut que je dise quelques mots d'entrée de jeu sur l'histoire de cette formule. Commencer à dévoiler le sens de la formule. Et je précise d'ailleurs que pour une fois, souvent, quand on en arrive au stade de la publication des résultats sous la forme de livre, il y a une partie de bras de fer avec l'éditeur. Alors là, zéro bras de fer. Et le titre, et cette image, ou à peu près cette image, il n'y a eu aucune négociation, aucune tractation. Cette circonstance avec l'éditeur, ils ont pris tout de suite. Alors moi, si j'ai pris le cheval en robe de mariée, alors déjà, eux, ils ont pris parce qu'il y a un côté intrigant. Donc c'est très important pour attacher l'intérêt des futurs acheteurs et lecteurs. Mais moi, si j'ai pris ça, c'est parce qu'en fait, c'est un énoncé extraordinairement efficace de l'essence du métier. Alors, je vais aller un peu plus loin en précisant là, en décodant l'image. Nous, on adore décoder ce qu'on voit, et notamment les images. Et alors, c'est une photo de Pierre Filiolet qu'il a prise sur la foire de Beaucroissant au début des années 70. Il y avait encore ce genre de dispositif de marchandise, parce que les marchands de chevaux, pour les marchands de chevaux, les chevaux sont de la marchandise, avec laquelle ils entretiennent des liens tout à fait particuliers pour bien faire le moulot, bien gagner leur vie. Et alors là, on a une bande, ce qu'on appelle une bande, c'est-à-dire l'ensemble du paquet de chevaux, en l'occurrence, ce sont des poulains, et qui, d'ailleurs, c'est déjà une stratégie du marchand. Quand il est suffisamment puissant, plus la bande est importante, plus il en impose. Et ça, c'est très important. Donc, il y a une bande de poulains et ils sont présentés au mieux de leur apparence. Avec le commerce des marchands de chevaux, il y a une dimension fondamentale, c'est le jeu sur l'apparence. Et alors, on les dit aussi, ces animaux-là, alors ils sont présentés par l'arrière parce que le client, ils sont attachés devant sur les barres et les clients circulent derrière. Et c'est la croupe, donc l'arrière du cheval, qui se donne à voir. Des arrières extrêmement impressionnants, parce qu'en fait, ils sont nourris à bloc, on appelle ça à pleine peau. Alors, il faut savoir, j'introduis déjà une idée importante que je vais suivre tout au fil de l'exposé. Engraisser un cheval, c'est masquer certains défauts, ou en jouer, en tout cas. Par ailleurs, ils sont extrêmement bien toilettés. Alors, tout le corps est extrêmement propre. Comme ils sont en très, très bon état, le poil est luisant. Ils en foutent plein la vue, pour dire les choses. On dit aussi, une autre manière plus terre-à-terre, mais qui en dit long, ils sont tape à l'œil. Et l'idée est de susciter le désir d'achat et d'identifier celui qui circule là, à celui-là, il me plaît. D'où l'idée du cheval en robe de mariée avec l'arrière-plan. Alors, je dis tout de suite qu'on est dans un univers masculin, pour ne pas dire macho. Et j'ai eu à cœur de créer un chapitre de bascule dans l'ouvrage dédié aux femmes. Et ce n'est pas du tout par hasard qu'on ait construit cette formule, qu'on retrouve de marchand en marchand. Hein. Le cheval en robe de mariée, l'idée, c'est que le jour des noces, on dit aussi en robe de noces, la femme qu'on épouse est un peu trop trompeuse, quoi, d'une certaine manière. Après, on découvre. Alors là, quelque chose qui est spectaculaire, c'est la manière dont on apprête les queues. Très important. Déjà, c'est la marque des marchands. Ils ne tressent pas les queues de la même manière. C'est une espèce de... C'est une mise en évidence de qui vend ça. C'est tressé avec de la paille de seigle, très costaud. Et il y a plein de raisons à ce tressage. Premièrement, on resserre les crins et on met en évidence la masse musculaire arrière qui, dans cette catégorie de chevaux, des chevaux de travail, des chevaux qu'on a appelés aussi de culture, au moment où il ne restait des chevaux que dans l'agriculture, quasiment, de trait, l'arrière, c'est là où siège la puissance future du poulain. Par ailleurs, vous voyez ce bouquet. Alors, on dit la bouquette, plutôt. Hein, le seigle est coupé. Alors ça a une fonction très pratique sur la foire. Quand la fameuse taupe est produite, que le marchand s'est mis d'accord et que c'est une question d'honneur de part et d'autre, on coupe le bouquet. Et donc, pour ceux qui observent, les marchands entre eux, vous voyez le marchand derrière, on le voit. Non, il n'y a pas de... On voit le marchand qui regarde d'un mauvais œil le photographe. En fait, ils s'observent tous. Hein, c'est un jeu. On essaye de comprendre où est l'autre et de passer devant lui pour que les affaires marchent mieux. Et quand on coupe ce bouquet, ça veut dire que le commerce démarre. Alors, c'est cette famille Perraguin du Berry. Donc effectivement, comme tu l'as dit, j'ai eu la chance de travailler. La particularité, c'est qu'ils ont exercé leur commerce familial de marchands de chevaux sur 3 générations, voire 4 quand on compte une génération égale à peu près 25 ans. Et j'ai eu la chance de travailler avec 2 générations. Pas longtemps avec Daniel, que j'ai cerclé, qui est au milieu, là, que j'ai cerclé en rouge, mais c'était extrêmement précieux. Et très longtemps, comme tu l'as dit, avec Jean-Claude Perraguin, qui nous a quittés l'année dernière. Voilà, la photo a été prise à l'occasion du retour de la guerre de 14, des 4 fils, pas handicapés. C'est absolument incroyable, quoi. Les 4 sont partis à la guerre et les 4 sont revenus de la guerre à peu près en bon état. Et c'est la seule photo de famille très précieuse, donc, à ce titre. Très important, quand on parle commerce de chevaux, de s'inscrire dans l'espace pour comprendre comment fonctionne ce commerce. Alors, sur cette belle carte des paysages du Berry, on dit aujourd'hui plutôt région naturelle, j'ai localisé premièrement les 2 lieux de la famille. Alors, Poulaine, alors c'est incroyable, la famille a démarré son commerce dans un village qui s'appelle Poulaine, du nom de la petite rivière qui traverse le village. Et c'est trop petit pour figurer sur la carte, mais c'est tout près de Valençay. Ensuite, quand le dernier de la famille, donc qui est Daniel Perraguin, a transgressé la loi des reins de l'aîné du célibat, heureusement pour moi, parce que cette enquête et ce livre n'existeraient pas, il s'est installé à Reuilly. Alors, important d'analyser les régions naturelles en question, les paysages naturels. La Gâtine, alors pour ceux qui s'intéressent aux vieux français, Gâtine, c'est une mauvaise terre. C'est une région de toute petite agriculture, polyculture, élevage, pauvre. Par opposition majeure, la Champagne, donc pays de terres ouvertes, pays de très très grands domaines, de terres extrêmement riches. Et par ailleurs, on est dans la zone, pour les amateurs de vin, vous reconnaissez des AOC célèbres, le Reuilly et le Quincy. Donc on est dans une zone de transition et c'est très important par rapport au commerce de cheval parce que chaque région agricole a ses particularités, le système de production et chaque région a besoin de types de chevaux différents. Donc il faut prendre ça en compte quand on fait le commerce. J'ai mis trois étoiles, des lieux extrêmement importants, c'est trois foires dont je vais parler ultérieurement. Premièrement, Marais dans la vallée du Cher, deuxièmement, Vatan et troisièmement, Issoudun. Alors, je vais prendre du recul pour situer ce dernier livre, Le cheval en robe de mariée, par rapport à une longue trajectoire de recherche. Et dès avant d'entrer au CNRS, en fait, l'année précédente, j'avais publié le cheval dans la vie quotidienne en repérant, ayant repéré, c'était quand même assez incroyable, que aucun anthropologue, mais aucun historien ne s'était intéressé à cette période extrêmement importante où le cheval existait partout, à la ville, à la campagne, dans l'agriculture, dans l'industrie, sous terre et également dans le chemin de fer. Le cheval de trait est extrêmement lié au chemin de fer. C'est curieux, mais c'est comme ça. C'est un moment de l'histoire des techniques et de l'énergie. Et deux chiffres qui en disent long sur cette omniprésence et l'importance du cheval dans la société pour toute une série de raisons économiques, sociales, culturelles, tout passait par le cheval. En 1900, un cheval pour 5 Français, ça paraît incroyable aujourd'hui. En 1975, un cheval pour 250 Français. Et ce n'est pas du tout la même catégorie de chevaux. Alors, voilà donc le cheval dans la vie quotidienne dans sa version initiale en 1982. Quelques mots. L'ethnographie, c'est quand même complètement passionnant. Pour la majorité d'entre vous, sans doute, ça ne dit pas grand-chose. Pour moi, ça me parle énormément. Cette femme, donc veuve, manifestement, qui mène les chevaux, c'est complètement inhabituel, même en Bretagne. Je résiste parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais même en Bretagne, les femmes, c'est une histoire de mec, le cheval. Le cheval, c'est du côté de l'État, c'est du côté de l'armée, c'est du côté des haras nationaux, c'est la représentation du pouvoir central, le cheval. Cette femme qui mène, déjà, c'est complètement... J'en ai beaucoup discuté avec Jean-Claude Perraguin, ça ne lui plaisait pas du tout, cette couverture, le choix de cette photo de couverture. À moi, ça me plaisait tout à fait bien. Et elle mène, figurez-vous, de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de convention... partout à travers le monde, un cheval, ça s'approche par la gauche. Et bien, dans une partie de la Bretagne bretonnante, alors j'ai farfouillé pour essayer de comprendre cette énigme, et bien, on conduit le cheval par la droite, quitte à ce que ce soit très compliqué sur la route. Quand on retourne le livre, Le cheval dans la vie quotidienne. Alors, le cheval dans la vie quotidienne, c'est aussi bien que la civilisation du cheval. Au moins, c'est simple et ça dit tout. Et quand on retourne le livre, donc ce qu'on appelle la quatrième de couverture, on trouve qui ? Jean-Claude Perraguin. C'était la première fois que je le rencontrais. C'est une photo que j'ai faite donc en décembre 1980. Et en fait... On était sur le tournage d'un film documentaire sur le métier de roulier. Alors les rouliers, c'est les gens qui roulent de la marchandise sur les routes. Là, c'est pas seulement rouler sur les routes, c'est la phase d'avant, c'est-à-dire c'est celui-là, il représente le métier de débardeur, c'est-à-dire tirer dans les bois les fûts façonnés à partir des arbres battus. Pour ceux qui détaillent ethnographique qui vaut son pesant d'or, en fait, il ne connaît pas le métier. Il s'en est très bien sorti, je vous rassure, mais il ne connaît pas le métier. Pourquoi ? Parce qu'il mène avec des guides, alors que dans les bois, on mène à la voix. Parce qu'autrement, les guides, elles se prennent partout et ça peut provoquer des accidents. Alors, réédition donc en 2020... cette couverture très importante, on est dans l'agroécologie, on est dans le soin porté à la nature, à la biodiversité, on est dans une réserve en Savoie, dans la partie de montagne, et avec cette petite charrue savoyarde, dont la particularité est de labourer très très superficielle en montagne, les sols sont très fragiles. En fait, le but de ce labour léger, c'est de faire revenir deux espèces de tulipes sauvages protégées en France. Voilà, donc ces deux livres sont étroitement liés. Il y a plein d'histoires de Péraguin, père et fils, dans Le cheval dans la vie quotidienne. Alors, quand même, événement et expérience incroyable dans le métier, et j'ai repris ce que j'avais écrit 43 ans plus tôt. Alors, je me suis dit, je suis folle. Qu'est-ce que je vais trouver là? Et en fait, ça a été. Donc, cette version 2020, c'est un petit peu actualisée par rapport à l'état des connaissances, notamment sur l'histoire de la domestication par la génétique des populations. Et puis, actualisée, le dernier chapitre s'appelle « 40 ans plus tard ». Alors... tu as insisté sur le fait que l'enquête a été très très longue. Ben, elle a duré exactement presque un demi-siècle. Cette photo, moi j'ai fait beaucoup de photos, c'était une manière de faire le terrain. Et c'était en décembre 1982, c'est très émouvant parce qu'il y a le père qui stabilise la voiture le temps que Jean-Claude dégarnisse son cheval. Et voilà, là, Jean-Claude, qui était un fin dresseur, en prise avec une jument de 2 ans, mais qui a été élevée à la sauvage. Et donc, il fallait avoir la main pour en faire le tour. On va conclure là-dessus avec des histoires de gens du voyage. Moment extrêmement important. Quand j'ai eu terminé le manuscrit, je me suis avisée du fait, il y avait une petite brouille dans la famille, comme ça arrive assez souvent, entre les deux, le frère et la sœur. Et je me suis dit, je ne peux pas soumettre le manuscrit à l'éditeur, donc CNRS Édition, sans faire valider par la sœur de Jean-Claude Péraguin. Alors déjà, c'était important parce que je m'immisçais dans les histoires de famille et ça les a fait se retrouver. Et d'autre part, c'était aussi très émouvant parce qu'elle découvrait tout un pan de l'histoire familiale et de la mémoire familiale dont elle ignorait tout. Elle était pourtant extrêmement proche de son père, mais il n'empêche que ce qui a fait la vie de son père, c'est-à-dire le commerce des chevaux, elle ne savait rien du tout. Donc ça, c'est le boulot qui consiste à rendre compte, on appelle ça la restitution. Et à droite, une vraie restitution publique, c'était à Poulaine. Et vous voyez Jean-Claude Péraguin tout à fait sur la gauche. Sa sœur se cache dans le fond, mais elle était là très attentive. Et donc ça, c'est un moment important parce qu'en fait, ce métier, vous l'avez compris, il est quand même un peu sulfureux. Et cette femme, Françoise Puiset-Péraguin, était un peu inquiète de voir revenir sur la place publique les histoires de Maquignon, de maquignonnage, et en particulier par son oncle aîné qui était un franc maquignon plutôt qu'un marchand de chevaux. Alors, le siècle des Péraguin, très important, c'est le moment de l'apogée du cheval dont je parlais tout à l'heure, du cheval de travail, du cheval de tout le monde, dans la diversité des métiers et des contextes. Et c'est le moment de la dégringolade. C'est aussi très important, c'est qu'est-ce qui se passe quand un animal aussi central dans la société quasiment disparaît. Donc, siècle très important. Alors, rapidement, j'ai retenu 2 moments. Le moment du fondateur, donc Louis, et ensuite l'apogée avec ses quatre fils. Et avec ces 2 documents, on ne voit pas tout, c'est bizarre. Donc, au milieu, on a un avis publié dans un journal local, l'Écho des marchés du centre, la diversité des sources, où M. Péraguin Père aura pour la foire d'Issoudun le 24 courant un grand choix de bons poulains, il ne va pas dire que c'est des mauvais poulains évidemment, d'1 à 2 ans à l'hôtel de l'Écu. Alors, on est en 1914, il a eu un accident, on l'a détroussé au retour de la foire de Vatan, la foire la plus importante du secteur en Champagne, il a été laissé pour mort. Donc en 1900, là c'est 14 ans plus tard, il va pas très bien, mais il est bien obligé de continuer le boulot. Par contre, il présente sa marchandise à l'hôtel où, premièrement, lui, il sera plus tranquille qu'au milieu de la foule, et deuxièmement, il va faire venir à lui des clients qui peuvent aussi être effrayés par le jeu très risqué de la foire. Alors, on circule à pied, beaucoup. Avec cette technique, tu en as parlé tout à l'heure à propos du panneau derrière, là. Toute une partie du savoir-faire et du temps passé avec les chevaux des marchands consiste à savoir les arrimer comme ça par bande. C'est une technique très... Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est très intéressant. Vous trouverez ça dans le livre si vous voulez approfondir. On passe beaucoup de temps à pied. Plutôt les commis. Là, Issoudun, c'est à plus de 30 km de Poulaine. Ça veut dire un poulain, ça marche à une bande de poulains comme ça, ça marche à peu près à 4 km à l'heure. Donc il faut imaginer, premièrement, c'est pas lui qui a marché, hein, il a dû recruter des jeunes gens pas en âge d'aller faire la guerre. Et deuxièmement, il a fait étape, sans doute dans les écuries d'un autre hôtel, en route ou chez des paysans, de façon à ce que les poulains puissent se reposer et pour être présentables sur la foire, c'est très important. Alors, rapidement, les lieux. Donc, Poulaine, qui emprunte son nom à la rivière. D'un côté, ça, moi, j'adore les cartes, je trouve que c'est passionnant. D'un côté, puis grâce à Géoportail, donc le site internet de l'Institut Géographique National, on a une ressource absolument formidable. À gauche, la carte d'état-major, donc dans la région, année 1830. C'est à peu près le moment de la où le grand Louis a commencé à s'intéresser au commerce des chevaux. Et à droite, la carte topographique actuelle. Alors on voit très très vite que le village n'est pas devenu énorme, mais dans un premier temps, il s'est construit le long d'une route qui deviendra la départementale 15. Et ensuite, il s'est massivement développé sur la D960. Ces histoires de routes et de chemins, c'est très intéressant. Je résiste. Je ne résiste pas au fait d'expliquer le pourquoi du comment de ces deux étoiles. Alors, en rouge, Louis Perraguin naît d'un couple qui tient l'auberge, la seule auberge du village, et il travaille pour ses parents jusqu'au mariage. Et en fait, il entend les marchands de chevaux qui font halte ici, parce qu'ils reviennent de la foire de Vatan. Alors c'est la départementale 15 qui continue vers le sud, là, vers le bas de la carte. Et il les entend parler. Alors il faut avoir écouté ou participé à des repas de marchands. Ces gens ont une rhétorique, un savoir manier les mots, tout en images, et on sent que tout est tenu par des savoirs extraordinaires. Donc il est complètement... Et puis c'est des gens qui portent beau, hein, même quand ils reviennent de foire et qu'ils sont un peu salis. C'est fascinant, quoi. Donc c'est à n'en pas douter, et dans la mémoire familiale, c'est en écoutant les marchands qu'il a eu envie de se lancer dans ce commerce. Sans doute aidé par son père. Et il s'est installé donc en 1882, en se mariant, dans une partie du village qui était vierge encore. Hein, et il a construit sa maison à la sortie du village. Alors, évidemment, quand on s'installe marchand de chevaux, on se pose la question de qu'est-ce qu'on achète pour bien vendre, c'est-à-dire quel type de chevaux pour quels besoins locaux. Lui, il commence évidemment à l'échelle locale. Après, on va voir, il y a un épanouissement à l'échelle du pays. Mais lui, il commence petit, avec un petit portefeuille. Et donc, il ne faut pas prendre de risques exagérés. Et lui, il a été toute sa vie très raisonnable, ni attiré trop par les femmes, ni attiré trop par l'alcool. C'est quand même deux pentes assez fréquemment observées dans le métier. Donc, dans une commune de la Gâtine, donc pays de petite culture, polyculture, élevage, il faut des choix à tout faire, de gabarit plutôt moyen. Alors, l'enquête. Ça, c'est intéressant parce que c'est un enregistrement de Daniel Perraguin qui est fait par son fils. C'est-à-dire, le fils, il a rapidement compris l'intérêt que représentait cette l'enquête que j'entamais, un intérêt direct pour la famille, une espèce de d'enregistrement de la mémoire familiale et peut-être de réparation pour lui qui a, dont le métier a complètement dégringolé dans sa jeunesse. Donc il enregistrait son père et ensuite il me livrait les cassettes. Alors ce bout de cassette, j'étais en joie quand je l'ai, parce qu'à l'époque c'était la cassette, hein, c'était pas du tout dématérialisé. Et alors voilà, il y a un moment de bravoure. Jean-Claude demande à son père qui avait des chevaux et quels chevaux et pourquoi faire dans le village même. Là, il ne parle pas des paysans, on est dans le village. Alors le père B, il avait un cheval et un tombereau jusqu'à 84 ans. Il traînait dans la ville pour bricoler, faire n'importe quoi. C'était un ricandier. Alors les mots pèsent. Traîner, bricoler, n'importe quoi. Ricandier, c'est un parler typiquement berrichon. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de petite condition et qui a d'ailleurs un cheval qui vaut presque rien, qui juste avant l'écarissage, quoi. Et il fait. Alors, le deuxième point, le père, un vieux célibataire, sans doute pas les moyens de se marier, il bricolait, toujours bricolait, pour manger son pain, c'est-à-dire juste pour manger, quoi. Lui aussi, c'était un ricandier. On saute à une autre catégorie. Entrepreneur de batteuse. Alors lui, au contraire de tous les autres dans le secteur, il choisit des juments. C'est un pays de hongres et de mâles entiers. Là, lui, il a 3-4 juments. Il les trouve sans doute plus courageuses. Et alors, il explique qu'il était localisé à côté du bout d'hôtel de son père. Il y avait des écuries dans le coin de Poulaine où il y avait beaucoup d'écuries, beaucoup de logements, des hangars. 3-4, parce qu'il a un statut. La batteuse, c'est une énorme machine qu'il faut traîner de fer en ferme. C'est très, très lourd. Il faut des très, très bonnes juments puissantes. Donc, le gabarit plutôt au-dessus de la moyenne. Ensuite, un bon ouvrier bourrelier. Alors ça, c'est super. Il était fier. Je le vois encore avec un petit cheval alezan, un petit breton de Quimper, parce que ce n'est pas des si gros chevaux qu'ils avaient. C'est plutôt des petits chevaux increvables de la montagne, les monts d'Arry, quoi. Les Bretons, ils parlent de montagne. Et plutôt moyen, mais très courageux, facile à utiliser, beaucoup de cœur à l'ouvrage et avec une longévité absolument incroyable. Et ils étaient jolis. Voilà, les Bretons, ils aimaient bien fabriquer de jolis chevaux. Il était si joli. Il faisait la tournée dans les fermes. Ah, quand il s'amenait au trot, là, il y avait une jolie petite carriole anglaise avec des grelots. Et puis les harnais qui brillaient, des cuivres. C'est pas croyable ce qu'il pouvait être fier. Ça, c'est très intéressant parce que le cheval vous représente auprès de la société. Le cheval, au contraire des vaches qui sont l'intérieur, l'intimité de la ferme, le cheval, il circule dans la société. Donc le cheval, c'est soi-même. Ensuite, le roulier. 3 chevaux, un tombereau. Il allait chercher la glaise pour la Tuilerie. J'ai trouvé une carte postale géniale que je ne vous montre pas parce que je n'ai pas le temps. Les tombereaux de glaise, il faisait des tours, il était rapide, il prenait l'argile toute pure juste à la sortie du village. Là. Elle n'est pas loin d'où ils ont fait la route. Il roulait toute l'année pour la Tuilerie. Et un autre roulier, mais débardeur, comme Jean-Claude Perraguin tout à l'heure, il sortait des bois, donc un bois à côté. Et alors, la chute. Le père B, il avait 3 chevaux, il n'en attelait que 2, un de rechange. Il faisait la poste, c'était une diligence, on dit aussi la patache. C'était lourd, une grosse diligence sur 4 roues, il y avait une caisse dessus avec des vitres, etc. Alors, moment très émouvant dans l'enquête. une fois que le livre est paru, que j'ai fait cette séance de restitution à Poulaine, à laquelle elle assistait, elle m'a envoyé un courrier. Et elle m'a expliqué l'histoire de vie de son arrière-grand-père. Et c'est lui qui avait cette diligence. Il faisait à la fois le transport des voyageurs et des colis aussi. Et il partait tous les jours de Poulaine jusqu'à la gare de Gièvre, aller-retour. Donc, c'était la voiture postale de l'époque. D'ailleurs, il y avait une boîte à lettres accrochée à la diligence. Voilà. Donc, ça pour dire que il y a des moments dans l'enquête où ça fructifie, quoi. Et où on apporte de l'information et l'information revient et enrichit l'enquête précédente. Alors, il faut avoir la bonne marchandise pour bien la vendre à des gens qui en ont besoin. Et comment on fait pour se procurer la marchandise dans un pays où le Berry n'est pas un pays d'élevage ? Alors, premièrement, la foire de Vatan, énorme foire, très très ancienne, très importante, avec un rayonnement de tout le nord de la France, et notamment avec la présence de marchands parisiens et qui fournissent pour toutes les entreprises de transport urbain, et aussi des marchands du Massif central et qui fournissent les mines. Alors, tout ça fait que les chevaux sont chers, puisqu'il y a des marchands qui achètent cher, pour vendre cher. Et lui, ça, la place dans ce système, c'est complètement lié à la logique de l'activité des agriculteurs dans cette gâtine, on dit aussi le bois chaud nord, où ils gagnaient un peu d'argent en assurant un roulement de leurs chevaux. C'est-à-dire que pour ne pas perdre d'argent et pour en gagner, ils ne gardaient pas les chevaux longtemps, ils les revendaient à Louis Perraguin, qui, lui, les replaçait sur la foire. Donc, tout le monde gagnait. Et par ailleurs, Louis Perraguin, il replaçait des poulains. Alors, les poulains, ils viennent d'où ? Alors, déjà, le métier qui passe par le chemin de fer. Deux cartes très parlantes. À gauche, donc la carte des chemins de fer dans le nord de la France en 1860. Et à droite, c'est... Pourquoi c'est masqué, là ? Bon, ça fait rien. C'est en 1890. Alors, à gauche, ça, c'est le temps du grand-père. Donc, vous voyez la ligne Paris-Brest qui, en 1860, s'arrête à Rennes. Et elle arrivera à Brest en 1865. Et d'autre part, en 1869, se concrétise le parcours Vierzon-Saint-Pierre-des-Corps qui intéresse directement la famille Perraguin avec la gare de Gièvre qui est à une dizaine de kilomètres de Poulaine. Donc, Louis Perraguin a entendu les exploits des marchands venant de Vatan, qui évidemment, pour se hausser du col les uns par rapport aux autres, c'est un métier où on est assez fier et où on aime bien un peu se mettre en valeur et peut-être un peu gonfler le réel. Et donc, entre autres, il y avait ces épopées de voyage à travers la France et pour aller s'approvisionner en Bretagne, et tout particulièrement à la foire de Comana. Alors, la foire de Comana, donc carte postale, source très très importante, dernier mardi de chaque mois, c'est-à-dire vraiment souvent les foires sont annuelles, mais en Bretagne, on disait en Bretagne, c'est la mer aux chevaux. Donc c'est un pays d'élevage faramineux, tout le monde trafique, c'est le terme consacré, tous les paysans sont plus ou moins maquignons, et ils vendent sur la foire, là, assez cher, mais toujours moins cher que si qu'il fallait acheter sur la foire de Vatan. Bon, à gauche, là, vous voyez les deux cartes très, très parlantes du développement impressionnant du chemin de fer à partir de l'Angleterre industrielle et de sa pollution, d'ailleurs, hein, ce qu'on appelle l'anthropocène aujourd'hui, et source de nos malheurs écologiques. Et voilà, des chevaux entiers, hein, beaucoup, en Bretagne. Alors, le temps des quatre fils, vite, vite. Les deux personnages importants, c'est l'aîné, le maquignon dans l'âme, et le Benjamin, donc le père de Jean-Claude. Là, on est dans la première moitié du XXe siècle. Alors, je fais très, très vite, mais j'ai mis très, très longtemps à vraiment comprendre comment ça fonctionnait. Ça, c'est les débuts, donc, en 1900. Abel a 17 ans, il a dû prendre la relève très, très tôt. C'est un gamin, même à l'époque. Et pour se lancer dans ce métier, c'est vraiment très, très jeune. Ça explique pourquoi c'était quelqu'un qui s'est forgé un caractère assez brutal, autoritaire, qui préférait beaucoup acheter des poulains en masse plutôt que de vendre, parce qu'il ne supportait pas les clients et il n'avait pas le temps. Il fallait faire vite et gagner plein d'argent très, très vite. Et il a tenu la fratrie de main de fer. Au début, c'était pas très compliqué parce qu'en fait, ils étaient deux en âge de commencer à faire le commerce. Ils s'entendaient très bien avec le second qui le suivait d'un an. Ils partageaient d'ailleurs la même chambre avec le coffre-fort. Et ils avaient des caractères complètement différents. Autant Abel était, Jean-Claude le présente comme un commandant sur un champ de bataille. Et autant Georges, il était sociable et diplomate. Le premier, il aimait aller très loin, c'était un quasi-nomade. Et plus ça a été, et plus il a passé sa vie dans les trains et les hôtels à grands coups de... il s'envoyait des télégrammes pour s'organiser entre les foires d'achat et les foires de vente. Et lui, il restait parfois 6 mois en Bretagne à l'achat. Au contraire, Georges, c'était l'homme bien plus... sédentaire, merci. Il allait quand même acheter, mais à proximité, donc deux régions d'élevage très bien desservies par le chemin de fer, mais beaucoup plus proches que la Bretagne, la Mayenne et la Nièvre. Et puis, il faisait le commerce local, ce qu'on appelle le commerce de maison, donc les paysans qui viennent acheter à la maison. Et ça, il faut un temps fou. Les paysans racontent leur vie, le misère de la famille, tout ça. Ils font une tournure d'esprit particulière. Et Gaston et Daniel, en 1900, ils ont 11 et 9 ans, et en fait, ils sont commis. Alors, découverte majeure, après la guerre de 14-18, expansion nationale, jusqu'à 2000 poulains par an. Et celui qui a fait vraiment exploser le commerce, c'est Daniel le Benjamin. Il établit une connexion directe entre la Bretagne, tout ça par le chemin de fer, sans repasser par Poulaine. Tout ça circule, comme tu as dit, par wagon, avec des trains qui sont parfois les mêmes... train de marchandises et mixte train de voyageurs, mais parfois pas les mêmes, beaucoup plus rapides. Et en fait, ils achètent tout en Bretagne, parce qu'en Bretagne, on sait produire des poulains, on sait forcer l'ovulation des poulinières pour qu'elles poulinent très très vite au printemps et qu'elles soient commercialisables très tôt à la fin de l'été, avant qu'ils fassent un temps d'hiver impraticable. Et donc, une activité à travers la France depuis, pas tout à fait par ici, mais enfin quand même les Alpes du Sud, Gap notamment, jusqu'à la frontière nord de la France, donc des pays de montagne. Alors, je tire les marrons du feu. Les marchands de chevaux sont des notables au statut paradoxal. Ils sont d'ici et d'ailleurs... à la fois ancrés localement, mais largement nomades. On les craint, ils dominent, par le besoin qu'on a de leur service, parce que l'attraction chevaline, personne ne peut s'en passer, surtout quand il y a des accidents au moment de la moisson l'été. Et d'autre part, comme ils circulent partout, qu'ils connaissent les cours partout, qui sont parfois très différents d'une région à l'autre et dont ils tirent bien sûr profit, ils ont une connaissance globale. Et c'est un métier qui fonctionne sur le système d'état, c'est-à-dire les défauts. Alors eux, ils savent acheter pas cher dans les régions d'élevage où les éleveurs sont obligés de se débarrasser de leurs animaux tarés. Et ils les revendent là où cet art ne les empêche pas de travailler. Et c'est là où ils gagnent. C'est là où ils gagnent l'argent, comme ils disent. définition du métier, on appelle ça le commerce des tares, et qui s'oppose au commerce de boucherie à partir des années 50 dont tu as parlé tout à l'heure. On me dit avec insistance, la foire, c'est l'âme du métier. C'est le lieu où l'on met le cheval en robe de mariée. Alors, le moment de bravoure de l'enquête. J'ai entendu Jean-Claude Perraguin en décembre 1983. On était, je ne sais plus sur quelle route pour aller voir je sais quel client. Et voilà, l'idée de vol honnête, c'est quand même magnifique comme définition du métier. En foire, on dit tirer un vol honnête, le commerce de foire. Un client qui se serait trompé le jour d'une foire, qu'il aurait eu un coup dans le nez parce que tout le monde picolait sur les foires. Les marchands aussi, mais pas trop les Perraguins, parce que ça pouvait faire complètement tomber le commerce. Si on tombait là-dedans, mais il n'avait qu'à pas boire. On ne lui disait pas de boire, nous. On ne tenait pas la conduite des gens. C'est ça le vol honnête de la foire. Tandis qu'un marchand qui avait une clientèle, commerce de la région, vous repreniez les bêtes, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le système des paysans de la Gâtine. Vous entreteniez une relation, vous entreteniez un commerce, vous aviez tout intérêt à ne pas le tromper. Alors d'un côté, il y a le commerce de foire qui est quand même le lieu où la compétence professionnelle s'épanouit, parce que c'est un lieu de risque maximum, et si on connaît les risques et où on sait les maîtriser, c'est là où on gagne. Sur tous les plans, de l'argent, mais aussi du pouvoir, du prestige. Et de l'autre côté, il y a le commerce de fidélité, le commerce de région, le commerce de la clientèle locale. Ça se tient, la vol honnête. C'est pas complètement idiot. Hein. C'est pas que du discours. De toute façon, ils disent jamais rien pour ne rien dire. J'ai posé la question à Daniel Perraguin sur la différence entre un maquignon et un marchand de chevaux. Alors voilà ce qu'il m'a dit. Ça aussi, c'était un moment de bravoure. Hein. Les paysans, ils nous traitaient de maquignons. Maquignons parce que beaucoup de marchands maquillaient un peu les chevaux pour les rajeunir. Il y en a qui trafiquaient les dents pour les rajeunir. Eux aussi, ils faisaient ça quand même. Il ne faut quand même pas exagérer. Dans tous les métiers, il y a toujours... on était un peu à part, donc il est un peu embarrassé, mais il y va quand même. Maquignon, ça voulait dire un type qui était capable de faire un tour à un paysan, de le tromper. Bon, vol honnête, hein, ça se dispute. Hein. Mais oui, ça se tient. Alors, voilà, lien et liaison avec les gens du voyage. Grand moment de l'enquête. Là, alors, il faut que je vous raconte quand même. Jean-Claude Perraguin m'a sollicité avec insistance pour participer à une équipée. Alors, je n'ai pas loupé ça, c'était impossible. J'étais complètement partie prenante. Et j'avais bien eu raison. Donc c'était en 1992, en août 1992, il venait d'acheter une roulotte de marchand de bonbons qu'on voit à gauche là. Et il avait décidé d'aller la chercher et d'en profiter pour dresser des jeunes juments. Il n'y a rien de mieux que la route pour dresser les chevaux. Donc nous voilà partis. Avec trois juments, des ouvrières, comme on dit, avec de la bouteille, il valait mieux. On a eu vraiment peur à un moment. On est parti avec une calèche. Je vous montrerai ça après. Et on a ramené, on est revenu de Sologne, et on a ramené, ça faisait quelque chose comme une centaine de kilomètres quand même aller-retour. Et... on sortait de Sologne, où on avait eu très très peur, je vous raconterai si on a le temps, si ça vous intéresse. Et puis on arrive au sortir de Selles-sur-Cher, célèbre par la qualité de ses fromages de chèvre. Et puis on voit la route. Alors la roulotte, elle était très très lourde en fer, d'un bleu pâle assez tristounet, et sans frein. Et on voit la route, chut. Donc derrière, chut. Et alors là, moi, je vous avoue que j'ai eu la trouille, quoi, parce que la jument qui était entre les brancards, la limonière, et c'est une jument formidable, c'est la bretonne qui est au milieu, là. Mais il n'empêche qu'il arrive un moment où elle peut ne pas avoir la force de retenir le poids derrière par une partie particulière du harnais. Donc on avait la trouille. Et c'est là où on s'est fait héler à la sortir de Selles-sur-Cher, autour d'un un truc giratoire là, qui sont souvent des lieux de campement de gens du voyage. On s'est fait héler. C'est là, c'est là. Donc on y est allé. Et voilà, c'était la famille Duville, donc des gens du voyage, des manouches. Et donc on a passé un petit bout de temps avec eux, puis après ils nous ont aidés pour affronter les premières descentes. Et hop, autre photo, autre roulotte. Alors là par contre c'est pas la même chose. Hein. Là c'est la roulotte de la famille, belle roulotte avec ses portes en bois ouvragé et attelée à des grosses voitures. Et d'ailleurs, la dame, la patriarche, qui est adossée à la roulotte de Jean-Claude Perguin, elle m'a dit trois fois, enfin, elle nous a dit trois fois, mais c'est Cro-Magnon. C'est Cro-Magnon. C'est génial. Alors, attendez, c'est pas tout à fait fini. Donc là, les jeunes gens de cette famille Duville n'ont pas demandé son avis à Jean-Claude Perguin. Ils ont aidé à les débarrasser des harnais et ils les ont lâchés sur le bord de la départementale, vraiment une route très très passante, toute droite. Jean-Claude Perguin, il était un peu inquiet. Ils les ont encadrés et ils nous ont expliqué, ben voilà, ce sont les prés longs. Les prés qui sont longs, c'est-à-dire les bermes, les bords de route, c'est là où il y a la ressource pour nourrir les chevaux des gens du voyage. Et ils les ont ramenés. Après, ils les ont enfourchés sans demander à Jean-Claude. Ils sont allés pêcher dans le bassin d'orage en contrebas. Ils sont revenus avec des colliers pleins de petits poissons. C'était un moment, hein, ramasser le vivant, pas tout à fait intéressant. Alors, pour résumer, voilà ce qu'on a fait. Et il manque un document.
Oui. Oui. Ça veut dire que ces juments n'étaient pas débourrés. Et que par
non.
Parce qu'elles allaient tirer la roulotte.
Oui.
Voilà, et ça contribuait à les débourrer déjà un peu. Mais donc, ces gitans, ils ont monté à cru.
Oui, ah ben tout le monde. Oh oui, mais les chevaux de trait, c'est pas comme les chevaux de sang, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus tranquilles et ils étaient déjà très très bien maniés. Alors, les jeunes juments, à l'aller, il manque un document, je sais pas pourquoi, à l'aller, elles étaient attelées derrière la roulotte pour les fatiguer. Et au fur et à mesure où elles commençaient à s'habituer bien, ils les mettaient en flèche devant. Au milieu de entre deux ouvrières. Et je peux vous dire que quand elles sont revenues à Ruy, elles étaient totalement, totalement dressées, rendues, quoi. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, quand même, c'est vraiment très, très important. Daniel Perguin, c'est auprès de gitans, en écoutant des gitans sur les foires, qu'il a eu le déclic pour organiser son système à grande échelle à travers la France. Bon, je passe. Donc, Marais, foire locale, foire champêtre, lieu d'omniprésence tous les ans des gens du voyage. Et moi, j'ai fait, en fait, j'avais été faire une enquête sur la foire de Marais en septembre 83, avec Jean-Claude Perguin et Paul Duville, c'est-à-dire qu'on se connaissait déjà, quoi. Il y a eu un moment très, très intéressant de la discussion. Donc, Jean-Claude Perguin. J'ai vendu une jument bretonne il y a 3 ans à René Duville, mais je l'ai livrée à Loche, un jeune. Il l'a livrée à un jeune. C'est le patriarche qui l'achetait, mais en fait, c'était pour le jeune. Donc, Paul Duville répond, j'ai mon frère Jean Duville qui est à Loche, il y a longtemps qu'il est à Loche, il y a 50 ans, il a 78 ans, ça veut dire qu'il y a de la sédentarisation. C'est là-bas que je l'ai livré, t'en as acheté combien à mon oncle Abel? Tous les 3-4 mois, on en prenait un, c'était Abel qui vous vendait ça, voilà, oui. C'est-à-dire c'est Abel qui faisait ce commerce de, alors on appelle ça dans le métier, des bêtes à crime, c'est-à-dire des bêtes tarées. Des bêtes dangereuses, des bêtes qui ont été mal utilisées dans leur vie antérieure et qui, du coup, sont en révolte. et ou alors des bêtes poussives, c'est-à-dire avec des problèmes de respiration. Alors quand pour un cheval qui a à fournir un gros effort, d'être poussif, c'est très grave, quoi, parce qu'il se met à tousser, il ne peut plus rien faire. Et donc Jean-Claude Perraguin, le dernier qu'on a vendu, nous, donc à Reuilly, je ne sais plus à quelle famille, c'était un mulet méchant. Méchant, ça veut dire rendu méchant. Il n'y a pas d'animal méchant à l'origine. Il ruait. Le lendemain, il passe des caravaniers. Mon père leur a vendu. Vous achetiez des méchants pas cher. Alors, réponse, oui, on les soignait. On les faisait tourner pendant une heure ou deux avec une grande chaîne, 15 mètres, vous voyez. On plante un grand piquet et on les fait tourner autour. Et après, on peut faire ce qu'on veut. On les avait à la fatigue. Alors moi, je me mêle de la discussion. Vous venez souvent dans le Loir-et-Cher. C'est notre pays, ça, madame, au centre de la France. C'est régulier les parcours que vous faites ou ça dépend? Ça dépend où c'est qu'on est pris le mieux, on se dirige. Alors là, enquête complémentaire en janvier 83, parce que d'une enquête à l'autre, évidemment, on suit des fils. Est-ce que vous faisiez affaire avec eux? Moi, je voulais comprendre. Je savais un peu compris, mais je voulais, évidemment, les ethnologues, ils jouent aux naïfs, aux innocents, pour faire dire les choses et pour plus clairement, avec des foules de détails. Donc, c'est ce que je faisais. Réponse en général, non, non, non. Nous, on les chassait plutôt. On ne faisait pas de commerce avec les gitanes, donc au féminin, avec les manouches. Alors, je dis tout de suite que les Duville sont des manouches, hein, d'un point de vue de la culture.
Je précise juste si c'est le terme gitane, c'est trop marrant parce que c'est un terme pour désigner les gitans dans la communauté gitane, on va dire gitane. Eux, c'est des gitanes.
Voilà, c'est ça.
Donc, alors, le gars, il dit qu'il ne fait pas de commerce, mais tu te parles, il a quand même le langage.
Mais bien sûr. Ah oui, mais non, mais c'est très, très ambivalent. Il ne faut jamais prendre la parole des marchands de chevaux au pied de la lettre. Jamais. Il faut toujours contextualiser, comparer, et c'est là où ça devient vraiment intéressant, de la profondeur de sens. Comme le vol honnête tout à l'heure. Alors, réponse. Alors, pourquoi? Parce que les paysans auraient dit « Oh, ils travaillent avec les manouches. » Et ils se seraient méfiés de nous. Ce n'étaient pas des gens à fréquenter pour la question du commerce des chevaux. N'empêche qu'ils faisaient du commerce. Hein, la preuve, il vient de le dire juste avant. Et vous vous méfiez d'eux? Sûrement, on faisait très peu de commerce. C'est pas vrai. On pouvait y en vendre, mais il ne fallait pas y en racheter parce qu'on était sûr d'être volé. Ils savaient bien les droguer. Hein. Ça, c'est une autre partie de l'enquête. Voilà, j'ai pas le temps, évidemment. Vous savez comment ils faisaient? Oh non, non, on n'a pas, nous, on n'a pas trafiqué là-dessus. Il fallait trafiquer, c'est le terme, spécialement là-dessus. On ne les droguait pas, nous. Les gens venaient avec nous de confiance pour avoir une bonne clientèle. Hein, il ne faut pas tromper les gens. Il faut avoir la confiance. Là, je bascule dans la période où le commerce du boucherie remplace le commerce d'état, et on est à Vaugirard, qui est le saint du saint de la filière hippophagique. On a inventé un mot savant pour parler de la consommation de viande de cheval, parce que jusque à le vote de la loi sur la protection des animaux, c'était interdit. La vente du cheval. Ça se vendait dans les écarissages notamment, mais c'était interdit par la loi française. Alors là, on est dans les années 50, un petit peu plus tard, mais c'est pour donner une idée du... Alors vous voyez là, devant le photographe, la fameuse taupe, cochon qui s'en dédie, une fois qu'on a taupé, on n'a pas le droit de faire... Parce qu'il y a une honneur, il y a un honneur de la parole, très très important, et d'ailleurs on m'a dit, et archi dit, que les gens du voyage avaient l'honneur. C'est-à-dire que quand on s'engage, on ne revient pas sur là où on s'est engagé. Oui. Alors, il y a eu un moment très, très riche, très éclairant, de discussion. Vous voyez les dates, hein, tout ça se tient. Un échange entre Jean-Claude Perraguin et son maréchal Ferrand. Donc, Liseré, c'est en Champagne, c'est tout près. Alors, vous l'avez connu, l'équipe Lamarque, les Gitans, les rois de la boucherie? Ah oui, Lamarque est même venu en acheter ici à Reuilly. Ah, il y a un truc qui s'est mis là. Ça, oui, eux, pour trafiquer les chevaux. Coulogne, la marque, la bande noire, on les appelait. La bande noire à Paris, des chevillards à Vaugirard. Donc, chevillard, c'est les gros marchands, c'est le mec en costume que tu as montré sur la, là, lui, là, hein, à droite. C'était eux, les patrons. Ils avaient des bagues en or, ils. Alors, c'est Coulogne, hein. Il avait des bagues en or dans tous les doigts quand il venait acheter chez mon père, Coulogne. Il est sur la Côte d'Azur, il avait des chevaux de course, ils ont gagné à Cagnes-sur-Mer, c'est le grand hippodrome de la Côte d'Azur. Intouchable, ces gars-là, la bande noire, des caïds. Moi, je les ai vus venir chez nous, cette bande noire. Ils faisaient un wagon, deux wagons, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Ils faisaient toutes les fermes, ils achetaient 50 chevaux, beaucoup de chevaux de boucherie. Ils rayonnaient sur 2, 3, 4 communes. Ils étaient forts tous ensemble. Ah ben ça alors. Il y a des documents qui ont sauté, mais je vais vous raconter. C'est fini, après. Alors déjà, commenter ce qu'on vient de voir. Donc il y a une histoire de bande noire, ils sont tous premièrement organisés avec les abattoirs de Vaugirard, soit pour faire le commerce de chevaux de service recyclés avant que ça s'arrête complètement, soit surtout pour le commerce de boucherie. C'est organisé sur Paris, et tous ceux qui sont dans la filière boucheur, ils sont en même temps dans les chevaux de course. Pas seulement les trotteurs, il y a une hiérarchie, mais Coulogne, c'est des galopeurs. Et c'est une élite dans le système des courses, les galopeurs. Et j'insiste sur le fait que dans la qualité de la viande de boucherie, ce qu'on appelle les chevaux de sang, et rien n'est plus cheval de sang qu'un cheval de course, surtout le pur sang, galopeur, ça donne une bien meilleure viande que les chevaux de travail. À grains beaucoup plus fins et beaucoup plus irrigués en sang. Donc il y a une logique entre le commerce de chevaux, la viande et les courses, tout se tient. Je terminais là, sur ce document fantomatique. C'est une source très très importante. J'ai eu la chance d'accéder à cette chose-là. Grâce à Jean-Claude Perraguin qui veillait au grain, ce sont les carnets de marchands de chevaux. Alors ça, c'est le Graal. C'est le Graal. Je pourrais écrire, je ne le ferai pas. On ne peut pas tout faire dans la vie. J'ai une autre grande enquête sur l'ensemble du système maquignon en Bretagne. Là, j'ai vraiment interviewé tous les marchands, tous les segments. Donc si je dois encore faire un grand livre, si Dieu me prête vie, ce sera plutôt sur l'ensemble, ce que j'appellerai le peuple maquignon. Néanmoins, les carnets de marchands, c'est une merveille qu'il faut mériter, parce qu'au début, on n'y comprend rien. C'est désespérant. Il faut passer beaucoup, beaucoup de temps pour éplucher 5 pages, défricher, souvent des trucs qui ne sont pas très bien écrits parce qu'ils vont très, très vite sur les champs de foire, par exemple. Mais c'est extraordinairement intéressant. Alors il y a deux types de carnets de marchands. Il y a le carnet privé sur lequel il y a tout, y compris des choses qu'il faut garder pour soi. C'est pour ça qu'ils ont tout brûlé, et Abel, il a brûlé tout. Mais Daniel Perraguin, qui était un mec beaucoup plus sociable et beaucoup plus tourné vers l'avenir, il a tout gardé, il n'avait pas honte de ce qu'il avait fait. Et par ailleurs, il y a une autre catégorie de carnets qui sont des carnets très officiels qui ont été imposés à la corporation par le gouvernement de Vichy pendant la guerre. Et donc là, ils sont... Alors, ils ne mettent pas tout. Hein. Je peux vous dire qu'entre le carnet privé et le carnet officiel, ça aussi, c'est très, très... un peu sulfureux, mais très, très intéressant. Et je suis tombée sur une fiche de la marque, du fameux La Marque. Alors, c'était marqué La Marque, point. Chevaux, point. Issoudun, ça, c'est pour qualifier le vendeur. Et en dessous, signalement du cheval... âgé de plus de 13 ans, ça veut dire qu'il a peut-être 20 ans, et gris, gris foncé, il n'est peut-être pas si vieux alors, arabe. Alors ça, c'est très, très, très intéressant. J'aimerais bien en discuter plus en détail. Après, ça, c'est le carnet d'achat. Le carnet de vente, une semaine plus tard. Alors, là, le prix. Alors, les prix, il y a un chapitre dans le livre qui s'appelle « L'argent ». Évidemment, c'est le nerf de la guerre. Donc, il achète 8 000. Il achète moins cher qu'il ne vend, évidemment. Et alors, il y a les mêmes caractéristiques du cheval, évidemment. Toujours aussi jeune, à peu près jeune. Et puis, il vend à un dénommé Bernard, qui est boulanger. Alors ça, c'est très, très intéressant, parce qu'un boulanger, il circule. Et il achète un cheval, ce qu'on appelle un bidet de route, donc qui trotte vite sur la route, qui est beau, hein, pur sang arabe ou un arabe, ça vous pose un peu là. Enfin, voilà. Ce que je voulais dire, juste dernier mot pour finir, que je n'ai pas commenté dans une image précédente, il y a plein de mots utilisé par cette famille pour désigner les gens du voyage. Il y a caravanier, il y a gitane, ça dépend des contextes. Il y a manouche quand même qui sort, qui est la véritable identité culturelle de cette famille Duville et qui était très, quand même très présente dans le Berry, plus ou moins bien accueillie. Il y a aussi bohémien. Et la plupart de ces termes sont aussi des termes d'injure dans des contextes différents. Dernière remarque, en fait, il y a une espèce de gradient de marginalité et de notabilité, tout est relatif, entre les vrais gens du voyage et ces nomades de métier que sont les marchands de chevaux. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont à part de la société, mais qui sont extraordinairement utiles. On a vraiment besoin d'eux et leur pouvoir vient de là, quoi. Donc l'enquête, oui, vive l'enquête, approfondie. 40 ans, c'est pas trop pour bien comprendre qui sont ces gens-là. Et c'est d'autant plus important que, évidemment, la chaîne de transmission, c'est fini. Et si nous, on n'est pas là pour comprendre et se donner les moyens par le terrain en faisant des séjours, en recoupant les informations, en reposant toujours les informations. Alors j'ai rigolé en écoutant les bandes, parce que de temps en temps, ils s'énervaient. Ils disaient, mais je vous ai dit 20 fois ça déjà. Et en fait, j'avais besoin d'entendre 21e fois pour être sûre et voir quelle version différait de la précédente. Et puis, Jean-Claude Perraguin, ben, il est parti au paradis des marchands de chevaux, là en novembre 2024. Et si je n'avais pas fait ce boulot-là, eh ben, je peux vous dire que je m'en serais vraiment voulu, quoi. Donc on fait un boulot passionnant. Voilà, oui.